y a un paradoxe dans le rapport de la tradition juive à la culture grecque, matrice de la culture occidentale. D'un côté, on dit dans le Talmud qu'on peut lire la Torah en grec, car c'est la plus belle des langues. De l'autre, on considère que le jour où la Torah fut traduite en grec a été un jour néfaste, un jour catastrophique, la fameuse Septante. Plutôt qu'une contradiction, c'est une tension qu'il faut entendre entre ces deux énoncés. Et deux hommes incarnent ce mouvement de balancier. Le talmudiste Pascal Baquet, qui publie « Double » aux éditions Elliott, un recueil de poèmes bibliques traduits et commentés, et l'écrivain Pierre Michon, qui signe la préface de ce livre et qui nous fait l'amitié de nous recevoir chez lui, au fin fond de la Creuse. Bonjour Pierre Michon.
Bonjour Ben.
Merci beaucoup de nous recevoir ici, chez vous, dans la Creuse.
Merci de venir au bout du monde.
Bonjour Pascal Baquet.
Bonjour Ruben.
On pourrait faire très simple et résumer à l'extrême en disant que Pierre Michon, c'est un des plus grands écrivains français. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Pascal Baquet, pourquoi il compte tellement pour vous, Pierre Michon ?
Parce qu'il est d'abord un maître de l'écriture et de l'art en danger, peut-être.
J'écris juif en français. J'écris l'hébreu directement en français.
Voilà qui est magnifique.
C'est sage.
Mais vous dites un peu ça, Pascal Baquet. Vous dites que le rapport de Pierre Michon à la langue française, c'est ce que vous retrouvez, vous, dans l'étude de la Torah.
Oui, il y a quelque chose d'une orfèvrerie, d'un sens de l'extrême détail qui habite tous ceux qui étudient et qui s'entend aussi dans la façon que Michon a de rythmer ses phrases un peu comme le vieux Flaubert travaillait sur ses phrases comme un dément. Il y a quelque chose dans la grâce de l'écriture de Michon qui appartient à cette grande lignée-là.
Et vous, Pierre Michon, qu'est-ce que vous lui trouvez à Baquet ?
À ce zozo-là.
Je trouve qu'il a un angle d'attaque de la langue française à cause notamment de cette imprégnation juive unique. Personne n'a cet angle-là. Personne. C'est un créneau que personne ne dispute.
Vous dites, dans la préface que vous avez signée du livre de Pascal Baquet, « Tout vrai roman est à la fois un dépaysement et un espoir de revenir au pays. »
Oui. Oui, vous savez, Borges disait qu'il n'y a que deux façon d'écrire un livre. Lui, il ne s'appuyait pas sur la Bible, il s'appuyait sur Homère, bien sûr, sur l'Iliade et l'Odyssée. Il n'y a que deux façons d'écrire. Soit on écrit l'histoire d'une femme qui est la cause de la chute d'une ville, l'Iliade, soit on écrit l'histoire d'un type qui rentre chez lui, qui ne peut pas y arriver. C'est Ulysse. Eh bien, la Bible, c'est les deux. Parce que la femme qui est prise, c'est Israël elle-même. Et le type qui ne peut pas rentrer chez lui, c'est le peuple juif. Depuis toujours. Enfin, depuis l'exil. Mais même avant, il y a eu des tas. Il y a eu tellement de bagarres. Pour cette de bataille de sanglante, pour cette portion autour de Jérusalem, que tout, finalement, tout agnostique, je ne le suis pas. Si j'étais tout à fait agnostique, je ne pourrais pas m'empêcher de dire il se passe quelque chose dans cette putain de Jérusalem.
C'est dès Les Vies minuscules, votre premier livre qui vous a lancé, vous dites, en tout cas, le narrateur dit, J'étais et je suis toujours un athée mal convaincu.
Oui, c'était de la provocation. Ah. Parce que athée, je ne le suis pas. Oh là là, je suis violemment attiré par, on ne peut pas dire le religieux ni le sacré, par le un, la toute-puissance du un.
Dans le livre d'entretien « Le roi vient quand il veut », vous avez cette phrase dans un chapitre qui s'appelle « La Bible et mon pays ». Jamais aucun mythe ne parviendra à briller avec cette incandescence qui perfore le texte biblique.
Oui. Ce qui perfore, c'est, je dirais bien que c'est justement la voix de la toute-puissance. Quand vous avez les Grecs, les dieux parlent dans les textes, les dieux du mythe, mais ils disent toujours en quelque sorte, je ne suis qu'un dieu parmi les autres, je ne suis pas le un. Mm. D'ailleurs, il leur faut toujours, quand ils sont en opération divine, un moyen pour arriver à leur fin. Par exemple, Hermès, qui pourtant est un sacré dieu, est très sympathique. Quand il amène Achille demander à Priam, supplier Priam de rendre le cadavre du fils d'Hector, avant d'entrer, ils font un petit abracadabra avec une branche spéciale. Mmh. Et ils sont des limites toujours dont ils sont conscients.
Et pourtant, votre dernier livre, c'est « J'écris l'Iliade ». Vous ne vous imaginiez pas écrire la Bible ?
Elles sont semblables, mais je ne peux pas écrire la Bible. Parce qu'on ne peut que l'écrire du côté de l'un, et je ne suis pas l'un.
C'est-à-dire ?
Je ne suis pas celui qui peut dire « je suis celui qui est ». Mmh. Je ne suis pas celui-là.
À part ça, il y a le nom aussi. À part ça, il y a le nom. À part la toute-puissance, il y a la question du nom. Il y a la question du nom propre. Qui est...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait qu'il y a Dieu, qu'il y a l'idée commune de Dieu. Dans l'étude, ça s'appelle Elohim. Et puis, il y a le nom propre de Dieu. Ce qui est une histoire incroyable, parce que ce nom propre de Dieu, il parcourt la Genèse depuis le fils de Seth, depuis Enoch. Et on dit dans le verset « Azuchalikro b'shem Hashem ». Alors on commença à prononcer le nom de Dieu. Mais le Midrash là-dessus interprète et dit « Uchal », ça veut dire « on a profané ». C'est-à-dire qu'aussitôt que le nom de Dieu, ce fameux nom de Dieu, a commencé à circuler, il a été systématiquement profané ou profanatoire. Et en fait, quand on parcourt toute la Genèse, on voit constamment ce nom réapparaître comme en concurrence du nom commun, si je puis dire, de Dieu, donc de Elohim, celui qui commence le premier verset de la Genèse. Mais en vérité, ce nom, il est, si je puis dire, insupportable par les hommes. Et le moment où ce nom devient soutenable par les hommes, c'est dans l'Exode. C'est au début de la mission de Moïse en Égypte, où il y a le verset dit, donc Dieu a parlé à Moïse en lui disant « Ani Hashem, je suis », cette fois le nom. Et en fait, bon, ça c'est mon interprétation, mais en fait, ce nom qui vous est cher et dont vous parlez dans la préface, et qui est encore une autre modalité que celle de la toute-puissance, ce nom, il n'existe qu'à partir du moment où il y a un Israël qui le soutient. C'est-à-dire qu'Israël est d'une certaine manière le porteur, comme on portait l'Arche d'Alliance, on porte le nom. Et pourquoi est-ce qu'il faut Israël pour supporter le nom divin? Parce que la première traduction midrashique du nom divin, c'est « Haya ove veye », « Il était, il est, il sera ». Donc c'est traversée du temps, mais pour qu'un homme puisse supporter cette traversée du temps et puisse en entendre la résonance, il ne faut pas que ce soit un homme, il faut que ce soit un peuple. Raison pour laquelle le nom ne peut commencer à exister authentiquement.
Oui,
voilà.
C'est en cela que le peuple d'Israël est bien la nation élue, c'est-à-dire la nation sacrée, parce que tout ce que vous venez de dire, c'est ce que recouvre l'ancien mot latin « sacer », sacré. C'est à la fois tout de suite blasphématoire, mais...
Vous avez une formule, Pierre Michon, dans la préface du livre de Baquet, vous dites « Dieu, c'est un trou dans la langue ».
Oui. Ça vient d'une remarque de Barthes qui disait que ça faisait un trou dans le dictionnaire, Dieu. C'est pas faux.
Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que ça se pose là tout seul, sans référent visible. Et ça n'est pas sans référent, c'est sans référent, mais ça n'est pas une abstraction.
Est-ce que c'est ça aussi qui explique ce point commun qu'il y a entre Michon et Baquet, qui est que tous les deux vous tournez à l'infini autour du mot juste? Baquet parlait d'une écriture ciselée, d'un orfèvre. Est-ce que ce trou autour duquel vous tournez, c'est aussi ça, Dieu? Parce que vous dites par ailleurs que Dieu, c'est le langage.
Bien sûr. Bien sûr que Dieu, c'est le langage. C'est le langage, surtout si c'est l'hébreu. Mais c'est le langage parce que Dieu est la seule... Dieu, tout comme le langage, est la seule donne commune à tout homme né sur cette terre.
Est-ce que le poème, c'est le moyen, le meilleur moyen de se rapprocher au plus près du vrai?
Certainement, oui. Moi, vous savez, j'écris toujours comme si j'écrivais un poème.
Mmh. Oui.
Je n'écris pas autrement. Il faut que je l'apprenne au fur et à mesure par cœur, comme je ferais d'un poème ce que j'écris.
C'est comme une ingestion du texte. Une incorporation du texte.
Oui.
Est-ce que c'est pour ça, Pascal Baquet, que la Torah parle d'elle-même comme une shira, comme un chant, comme un poème, donc?
Oui, la Torah parle d'elle-même comme d'une shira, c'est vrai. Et d'abord, parce qu'elle est faite pour être chantée, parce qu'elle est chantée elle est chantée trois fois par semaine, et in extenso tous les Shabbats. Aussi parce que comme dans le chant, de la même façon qu'un chant ne peut pas perdre une seule note, la Torah ne peut pas perdre une seule lettre. Et par ailleurs, à part dans les passages poétiques que j'ai lus, parce qu'ils présentent une particularité formelle supplémentaire à ceux des autres versets, il y a effectivement cette nécessité de ne pas rater une seule note, de ne pas de, de, C'est une nécessité circulaire. Il y a quelque chose dans la musique de circulaire. Contrairement à la prose. C'est pas de la prose, effectivement. C'est pas de la prose si la prose, ça signifie une espèce de parole qui avance. Hein, c'est la prosodie. Hein, c'est une parole qui traverse le chemin sans pouvoir s'arrêter ou s'arrêter quand elle le veut. Il y a, au contraire, dans la finitude parfaite du texte biblique, quelque chose qui, effectivement, l'articule absolument à la perfection d'une musique.
Je me dis souvent, notamment depuis qu'on parle ensemble, donc depuis plusieurs années maintenant, en voyant les Juifs devant le mur, dans leur... que c'est le poème. C'est la forme, comment dire, ce marmonnement infiniment réitéré, c'est la forme initiale du poème.
Mmh. C'est le poème originel.
Oui. Les mots n'ont pas changé, puisqu'ils... Enfin, si, ils parlent, mais... Est-ce qu'ils parlent ?
Qui ça ?
Les Juifs qui prient.
Oui. Oui.
Il parle ?
Il parle. Il parle.
Il marmonne.
Il marmonne, mais il parle. Oui, il parle. Il parle comme ça parce que quand Hannah, qui désespérait d'avoir un fils, était allée au temple, et le prêtre qui la voit demander un fils, qui sera le plus inouï des prophètes d'Israël, qui sera Samuel, elle avait, seules ses lèvres bougeaient, et le prêtre croyait qu'elle était ivre.
Ouais, je m'en rappelle.
Vous voyez ? Et effectivement, les Juifs devant dans ce qu'on appelle la Amida, quand ils prononcent les 18 bénédictions qu'on dit 3 fois par jour, effectivement, ils les marmonnent extrêmement doucement. Mais il ne faut pas rater un mot. Il ne faut surtout pas rater un mot.
Ce qu'il y a, c'est que dans cette histoire de... il y a deux entités, enfin deux personnages, qui sont personnages, si on veut, tout de suite en avant, et qui sont des notions capitales ou des personnages capitaux de la judéité, et qui sont le personnage de Samuel.
Ouais. Mmh.
Qui est, en ce qui me concerne, un des plus fascinants de la Bible. Ce personnage est tout de suite branché sur David. Et la cause du royaume d'Israël comme royaume, parce que c'est lui qui a appelé Saül, qui est un personnage que j'idolâtre,
oui.
Ce loser, oui. Absolu,
oui.
Dans un livre de victoire,
oui.
C'est beau.
Ça ressemble un peu à ce que vous avez fait dans Les Vies Minuscules.
Oui.
C'est aussi un peu des losers, les personnages des Vies Minuscules.
Oui.
Et justement, le projet, vous vous en êtes souvent expliqué, c'était de les réhabiliter, de leur rendre leur dignité, leur noblesse.
Oui, oui, oui.
Il y a aussi un peu ça dans la Torah, Pascal Baquet, des vies minuscules. J'y pensais en venant ici. C'est un texte qu'on va lire bientôt, justement. C'est Jacob qui se retrouve devant Pharaon. Pharaon lui demande « C'est quoi ta vie ?» Et il dit « J'ai eu une vie courte. » Et difficile. Ça raconte aussi des petites vies, la Torah, en fait.
Oui, parce que à la différence de ce que disait Pierre sur la toute-puissance et qui est profondément vrai concernant Dieu, quoi qu'on dise, Israël, y compris d'ailleurs dans ses visées messianiques, ne tire pas son sens de sa toute-puissance. Moi, je dirais que tout à l'heure, Pierre évoquait les rois d'Israël. Et ce qui est étonnant, entre parenthèses, c'est qu'on raconte dans la Genèse la généalogie des rois d'Édom avant de raconter la généalogie des rois d'Israël. Et on dit, au point que certains commentaires disent que d'une certaine manière, c'est perdu d'avance les rois d'Israël. Parce que les rois d'Édom, dans leur massivité, ils sont infiniment plus lourds que ces aventures si brèves. C'est pas dans le politique que le juif s'accomplit. Je dirais que c'est effectivement dans le minuscule de l'intelligence, dans le minuscule de l'effraction dans le monde de la puissance, que c'est en fait ce qui est prodigieux quand on a en tête les noms de Jacob et Ésaü, que Jacob ça signifie il talonnera, Yaakov, et que Ésaü ça signifie fait, l'homme fait. Eh ben, d'une certaine manière, c'est comme si on pouvait imaginer qu'il fallait presque que Jacob intronise son frère dans la puissance, qu'il lui donne sa puissance. Quand il voit Ésaü, il lui dit « Quand je t'ai vu, j'ai cru voir le visage de Dieu ». Chose presque, pour le coup, presque blasphématoire, mais comme si il fallait pousser Édom dans la volonté de puissance pour qu'il puisse, lui, Jacob, jouer son rôle de point d'effraction, de point de sortie de cette fatalité de la puissance. Donc, le minuscule de l'intelligence, oui, c'est la vocation du juif.
Oui, moi, ce que je dirais bien, c'est que, enfin, cette histoire d'Édom et d'Israël et de la toute-puissance et de son contraire, je dirais volontiers que Édom, enfin, appelons Édom ce tourbillon de royauté violente dont est né Israël, que Édom, qu'Israël est né d'Édom, que Édom a donné le jour à Israël tout en s'amoindrissant au niveau politico-guerrier et s'anoblissant au niveau du contact avec le nom.
Puisqu'on parle d'Édom dans la tradition juive, Édom, c'est l'archétype de l'Occident. À l'aune de tout ce qu'on vient de dire sur Juifs, sur Israël, pourquoi est-ce que ça suscite de la haine et du rejet, tout ça ? Il y a un mystère un peu là.
Il y a un mystère. C'est que le nom est insupportable. Voilà.
Mais pourquoi ? Comme disent les enfants.
Parce qu'il est le vrai.
Et le vrai, ça rebute ?
Le vrai est ce que nous fuyons à toutes jambes.
Parce que c'est trop exigeant.
Si le vrai existait un temps soit peu, on n'aurait pas d'intolérance réciproque des Palestiniens et des Juifs. On n'aurait pas, et même à un niveau très, très bénin et banal, Trump ne serait pas président des États-Unis.
Donc il y a une attirance pour le faux.
Et Poutine serait un fabricant de poupées gigognes.
Puisqu'on parle justement du vrai et du faux, je trouve que ça, c'est quelque chose qui vous relie, Pierre Michon et Pascal Baquet, c'est, et la littérature et la Bible en général, c'est un certain rapport à la vérité. Vous dites, Pierre Michon, que le vrai implique d'inventer, que la réalité de la scène est moins en question que sa vérité. C'est quoi la différence entre le vrai et le factuel ?
Oui, pas totalement, cependant. Pas totalement. On a inventé Si. Homère ou le bibliste d'après l'exil sont de grands inventeurs, mais quelque chose préexiste.
Je pense que ce qu'on appelle inventer authentiquement, c'est pas l'idole démiurgique, c'est pas l'idole du créateur démiurgique. Il y a une anecdote talmudique où un jour des élèves sont à la rencontre de leur maître et le maître demande « Mahidou shaya be betamidrash hayom » « Quelle invention y a-t-il eu au betamidrash aujourd'hui, à les maisons d'études ?» Et ces élèves, très gênés devant leur maître, n'osent pas répondre, n'osent pas dire ce qu'il en est. En fait, ce qu'il en était, c'est quelque chose de toute petite apparence et en vérité d'immense profondeur. Mais le maître, donc ils disent, mais maître, nous buvons tes paroles, nous têtons tes paroles, on ne va pas parler devant toi. Et il dit, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de maison d'études sans une invention tous les jours. Mais l'invention dont on parle, elle se produit à partir d'un retour à la source initiale du vrai. L'invention n'est pas création au sens de sortie ex nihilo. C'est pas ça la création. C'est pas la sortie ex nihilo d'une œuvre ou d'une pensée ou d'une parole. C'est le renouvellement. C'est la hitratshut. C'est le renouvellement. Et ce renouvellement, lui, par contre, il est aussi extrêmement rare. Et à cet égard, le point d'origine seul est véritablement inventé. Et c'est dans un sens second qu'on peut parler de renouvellement et donc de nouveauté, je pense.
Oui, je dirais bien que cette histoire de... tu insistes beaucoup là-dessus, Pascal, de renouvellement, de reprise à zéro à chaque fois du début de l'écriture, à quelque chose de l'éternel retour en Nietzsche.
Oui, bien sûr.
Et d'avoir mes mots, enfin, ça m'y fait penser beaucoup. C'est la même... les mêmes présupposés, la même façon de se présenter.
C'est le même oui. C'est le même oui au...
Et bien sûr.
Le oui à la vie ou le oui à la parole.
Comme dit Nietzsche. Car je t'aime ô éternité. Den ich liebe dich ô Ewigkeit.
Dans l'introduction à double Pascal Baquet, vous êtes un peu ronchon.
Oui.
Vous déplorez et c'est tout au long du livre, un rabougrissement de la pensée, du dire.
Ouais.
Et vous estimez que la langue française est condamnée.
La langue française est vivante parce qu'il y a Michon. Il faudrait juste qu'il y ait d'autres poètes qui naissent, ce serait pas mal.
Et il y a aussi autre chose, c'est la conclusion du livre. Vous dites, pour que la langue française se remette, donc ressuscite, il faudrait qu'elle se saisisse de ses versets. Donc, c'est-à-dire, il y aurait quelque chose à chercher dans le texte de la Torah, dans l'hébreu, au sens Lachon HaKodesh, pour ressusciter la pensée, la langue.
La langue française s'est construite comme une très grande langue de la rhétorique. Elle a été flamboyante parce qu'elle a été le patois de personnages à l'ambition politique si immense. On pense à Richelieu et son Académie française, on pense à Louis XIV, évidemment, et on pense à la langue classique qui obsédait tellement Baudelaire. Il y a un absolu, il y a une sublimité atteinte par la rhétorique dans la langue française qui, sous le poids des transformations historiques, sous le poids du bout de course de la satisfaction française qui a quand même tenu très longtemps la France. La France a été quand même puissamment appuyée sur sa satisfaction. Je pense que en tout cas, tout mon ouvrage, c'est de la forcer à l'effraction justement dont je parlais, de l'étrangérité du juif. Et que je pense qu'il n'y a pas de plus grand service qu'on puisse lui rendre, que moi en tout cas je puisse lui rendre. Mais Michon a d'autres choses à dire, je suis sûr.
Non, j'ai à dire une injure. En moi, le morceau de catholique qui subsiste a envie de vous dire, messieurs les juifs sodomites, sachez que toutes les langues se sont déjà renouvelées et se renouvellent sans cesse grâce au Nouveau Testament.
Magnifique.
Et pourquoi sodomite?
Bon, enfin.
Pourquoi sodomite? Enfin, parce que vous savez, c'est souvent accouplé au mot juif dans les textes dans les textes antisémites.
C'est intéressant parce que j'allais vous poser la question à tous les deux du sexe dans la langue, dans le langage, parce que vos derniers textes, vos derniers livres sont remplis de sexe, Pierre Michon. Or, il se trouve que, d'après Maïmonide, ce qui caractérise le Lashon HaKodesh, la langue distinguée, l'hébreu de la Torah, c'est que c'est une langue qui n'a pas de mots pour dire le sexe. Comment vous comprenez ça, Pascal Baquet ?
Je comprends ça du fait que comme Michon le sait très bien, à partir du moment où, en tout cas, on rentre dans l'engrenage, effectivement, il y a un abîme. Mmh. C'est un grand abîme, c'est un théorème rabat, le sexe. Enfin, en même temps, vous savez, je suis en train d'étudier le traité Sota avec mon camarade. On est sur le quatrième folio du traité Sota, ça y va dans la crudité. Mais donc, c'est pas une pruderie, il n'y a pas de pruderie de la Torah. Mais il y a une connaissance profonde de ce que s'il y a de l'innommable, s'il y a quelque chose que le langage, d'une certaine manière, perdra. Or, il n'est pas question qu'une lettre, encore une fois, perde la visée du sens. Il y a quelque chose comme une dépréhension de soi qui se produit dans le sexe, qui dans la langue de l'exactitude biblico-talmudique, si je puis dire, est inexploitable. Mmh. Ça ne veut pas dire que la littérature, d'une toute autre façon, mais sur la voie du poème, si je puis dire, et d'un autre poème que celui qu'on rencontre dans la Torah, ne puisse en faire son miel. Mais voilà ce que je...
Je ne sais pas, moi. Vous savez, Céline disait à propos des romans de son temps, enfin de Proust, tout ça, c'est toujours, est-ce que Lily va coucher avec Lolo et Lulu avec Lala. Ce qui est vrai pour la littérature. Mais repensant à cette histoire de langage du sexe, je me dis, c'est une élucubration. Je me dis, quels sont les premiers mots qui ont été échangés? Eh bien, je suis tenté de répondre, c'est quand ils ont été chassés du paradis, un échange entre Adam et Ève, Adam disant, tu vois, mais maintenant il faut qu'on bosse et tout. Et Ève lui répondant, oui, mais on n'aurait pas connu cette... ce contact sexuel, si on n'avait pas volé le fruit.
En tout cas, on n'aurait pas connu cette volupté, parce que cette forme particulière de volupté. C'est étonnant, parce que c'est très juste. Mais, alors c'est compliqué, parce qu'il y a plein d'avis là-dessus, mais on dit Caïn et Abel, que Caïn et Abel ont été conçus dans le Gan Eden. Mais par exemple, il y a un grand commentateur italien qui s'appelle le Sforno, qui dit que quand ils étaient encore dans le Gan, dans le jardin, ils l'étaient de leurs organes sexuels exactement comme de tout autre organe, comme des mains, des pieds. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'évidence fonctionnelle dans laquelle, effectivement, c'était pas immiscé, ce qui appartient à la consommation de l'art de la connaissance du bon et du mauvais,
oui,
et,
oui.
Qui est la conscience.
Oui.
Voilà.
On peut dire que le nom se baise perpétuellement lui-même.
Le nom se baise.
Il n'a pas besoin de clivage pour se faire. C'est comme l'androgyne platonicien.
Vous êtes parfois assez assertif dans Double, Pascal ouais. Baquet, puisqu'on jauge ici les limites entre littérature et Bible.
Ouais.
Vous dites, page 23,
ouais.
la Torah ne sera jamais littérature. Quelqu'un comme Rimbaud, par exemple, vous le classez du côté de Bilam, du personnage biblique
ouais.
très négatif de Bilam.
Très négatif.
Qu'est-ce qui
sacrément génial. Hein.
Génial, bien sûr, ouais. mais comme Céline, vous dites il y a quelque chose qui peut relever de l'abîme et de l'idolâtrie dans la littérature.
Disons que j'empêcherai jamais le père Michon. D'abord, il n'a pas besoin de moi pour ça. Il n'a pas besoin de mon accord. De s'emparer autant qu'il le voudra de tout ce qu'il nourrit de sa lecture de la Bible en le traduisant en littérature, en sa littérature. Pour moi, c'est plutôt le mot de littérature et l'institution de la littérature. Encore une fois, c'est une affaire de satisfaction.
Le côté figé.
Oui, je dirais même, il y a une satisfaction de la littérature à l'égard d'elle-même. Mais c'est pas Michon, parce que Michon, c'est pas la littérature. Michon, c'est un poète. Michon, c'est un poète qui a affaire au langage. C'est pas une affaire d'histoire littéraire, c'est pas une affaire d'institution littéraire. Et c'est très bien que l'institution littéraire ait donné à Michon la place qui lui revient. Mais il s'en fout pas mal parce que de toute façon, ce qui compte pour lui, c'est la ligne qu'il va écrire demain. Mmh. C'est la ligne qu'il va écrire encore. C'est ce qu'il n'a pas encore écrit. C'est ce qui n'a pas encore été statufié. Et c'est pour ça que Michon est profondément vivant. Et pour moi, le mot littérature. Dès l'instant où on le reconnaît et on le reçoit dans cette époque si lourdement sociologique qu'est la nôtre comme une institution, alors je dis seulement, quand je dis que la Torah n'est pas littérature, qu'elle est ininstitutionnalisable. Alors que, hélas, la littérature, elle, a été lourdement institutionnalisée.
Non, ce que je dirais volontiers, c'est que les écrivains, au sens où l'entend Baquet, c'est-à-dire Rimbaud, les écrivains, Shakespeare, ou pas les Tigus qui écrivent, tout le monde écrit. Mais ceux-là appartiennent à un corps spécial qui n'a pas été vraiment nommé ni par le judaïsme, ni par le christianisme, qui n'est pas l'humanité, qui n'est pas les anges, qui n'est pas les démons, qui est également un corps de fils, c'est si important dans le corps biblique. Ce sont les fils qu'on pourrait appeler, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ce sont les fils, c'est idiot à dire, c'est vieilleux, mais ce sont ceux qui naissent du Verbe en révolte contre le Verbe biblique, et tout ce qui est né de bien dans la Bible elle-même est né de révolte des fils, de révolte de fils. Tous les grands textes bibliques, et j'inclus les textes contre Israël, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été reconnus par Israël, comme le christianisme, ou Luther, ou etc. Tous les grands textes bibliques sont nés d'une révolte contre le texte canonique, contre le texte premier. Et cette révolte quand on dit on s'est révolté, on fait de la Bible un autre objet en se surajoutant, en l'enrichissant.
C'est aussi un texte qui s'alimente lui-même, alors.
Sans cesse.
Tout à l'heure, vous citiez les évangiles. La résurrection, c'est un thème dont on parle finalement peu dans la Torah, dans l'Ancien Testament, ou alors en filigrane, comme une tension latente, permanente. Mais c'est central dans le christianisme. Comment est-ce que vous l'entendez, vous, ce concept de résurrection, Pierre Michon ?
D'abord, pour un catholique, c'est le concept central. Ouais. Mais pour la Bible aussi, parce que à quoi vise-t-elle sinon à la résurrection totale d'un peuple qui est le peuple juif ?
Vous êtes lié organiquement à ce peuple aujourd'hui. Vous avez une fille juive, votre fille Louise Paché,
oui,
que vous avez eue avec Yaël Paché, oui, la fille de Pierre Paché, et juive.
Louise Michon.
Vous avez l'impression de faire partie de ce peuple indirectement, d'une certaine manière ?
J'en fais partie. Je me sens de cette famille-là aussi.
Et vous le trouvez comment, ce peuple, aujourd'hui ? Il va pas très bien, ce peuple.
Il va parfaitement bien.
Il va bien ?
Il est, comme d'habitude, un peu maltraité. Un peu mégalo.
Ouais.
Parfois pas assez. Mais je lui donne mon nihil obstat.
Merci infiniment, Pierre Michon.
Merci, Rosel.
Merci, Pascal Baquet.
Merci beaucoup.
Et merci à vous pour votre attention.